Son métier, chef cuisinier. Sa passion, pèlerin à temps plein. Daniel Lafond vous invite dans son univers et celui de ses invités, chers mordus de Compostelle. Prenez place et buen camino!
Bienvenue au mordu de San Diego de Compostelle. Mon invité, je vous en ai souvent parlé, un des trois membres des Trois Amigos, Christian de Lava, buen camino! Bonjour Christian, comment ça va?
Bonjour Daniel, écoute, ça va très bien. J'espère que toi, tu vas aussi bien.
Ah, je vais super bien. Écoute Christian, je suis tellement content. Je parle à mon chum, je suis vraiment, vraiment content. J'ai souvent parlé de toi dans mes podcasts, de l'amitié, des deux amis que je m'ai fait sur le chemin. Je m'en ai fait plusieurs, mais mes deux vrais amis comme vous, j'en ai souvent parlé. Puis je suis très content que les gens du podcast te connaissent enfin.
Écoute, Daniel, je suis content, évidemment, de discuter avec toi. On n'attend pas toujours les podcasts pour échanger. Il nous arrive d'échanger quelques messages.
Exact.
Mais bon, c'est vrai que je ne sais pas si j'ai tellement ma place dans ces podcasts, parce que moi, je suis un pèlerin tout à fait ordinaire. Tous les gens que tu as eu sur ces derniers podcasts... Je pense à Maddy, à Marcel Leboeuf, à Anne Saint-Hilaire, sont tous des gens vraiment extraordinaires qui ont marqué le chemin, qui sont des personnages du chemin, je dirais. Ben, moi, je m'inscris pas du tout dans cette lignée, quoi. Je préfère le dire aux éventuels auditeurs. J'espère qu'ils seront pas déçus, parce que je suis un pèlerin ordinaire, on va dire.
Je suis tellement pas d'accord avec toi, Christian. Tu es un pèlerin extraordinaire. J'ai passé des moments incroyables avec toi. Tantôt, je vais raconter une anecdote que je sais même pas si toi-même tu t'en rappelles, mais que moi qui avais marqué mon premier chemin. Mais tout d'abord, je vais mettre les gens dans le contexte. En 2016, j'étais sur le chemin Camino Francés et je sais pas si tu te rappelles où ce qu'on s'est vu la première fois. J'avais rencontré, ça faisait comme une dizaine de jours que je marchais et j'avais pas vu encore des gens parler français. Et à un moment donné, je tombe sur toi et Georges.
Ouais.
Et là, vous parliez français et là, c'est là qu'on a commencé à se parler. C'était où? C'était à quel endroit?
Eh bien, je pense que c'était à Los Arcos.
Oui, exactement.
C'était à Los Arcos. Ah, je me souviens très bien. Je me souviens très bien de toi. Et j'avais été très touché. On s'est présenté tout ça et puis tu m'as raconté un peu quelques affaires personnelles, un peu pourquoi t'étais sur ce chemin.
Ouais.
Et surtout les souffrances que tu avais à ce moment-là, parce que tu souffrais, tu avais mal aux jambes, tu avais mal aux pieds, et tu m'as raconté tout ça et je suis resté très sensible à ça et très ému d'ailleurs. J'ai été encore plus ému et plus surpris quand tu m'as dit que dans ton sac, en plus de toutes tes souffrances, tu trémalais des pierres que tu voulais amener à Saint-Jacques parce que tu avais fait des promesses à des amis. Enfin bon, et j'avais trouvé ton histoire tellement intéressante que, et puis ton personnage m'a séduit, quoi. J'ai eu envie de qu'on se revoie, quoi. Et puis bon, on a fait chacun notre chemin et puis on s'est retrouvés quelques jours après.
Ouais, exactement.
Et voilà, notre amitié est née comme ça.
Ouais.
Et bien oui, bien sûr, on a une pensée pour Georges ce soir. Hein,
ah oui, Georges.
On a été souvent.
Georges va être dans le prochain podcast.
Inséparables tous les trois.
Hein. Ouais, exactement. Et moi, je me rappelle, ça, je n'avais même pas parlé à personne pour les pierres. Mais moi, ce qui m'avait frappé un peu quand je vous avais rencontré au-delà de la langue, quand on parlait français, c'est que moi, dans ce temps-là, je dormais que dans les albergués et vous aviez dormi dans un hostel.
Je vais te raconter un petit peu, ben, si tu veux, comment je suis arrivé sur les chemins.
Oui.
Voilà. Donc, écoute, celui qui m'a amené sur les chemins, c'est Georges.
Oui.
Et Georges, bon, moi, le chemin de Saint-Jacques, tu sais, je connaissais pas, j'avais entendu vaguement parler. Et puis, il se trouve que l'année de la retraite, j'avais du temps. Et Georges me dit, tu sais, tu devrais venir avec moi, on va marcher sur les chemins de Saint-Jacques, c'est très sympa. J'en ai déjà fait avec avec un couple d'amis. Le couple d'amis, c'est Jean-Pierre et son épouse Monique. Ouais. Donc ils avaient marché déjà un petit peu ensemble. Il avait trouvé ça super. Et donc il s'est dit, tiens, je vais y amener Christian. Et donc il me fait cette proposition. Bon, moi j'étais pas terriblement emballé au départ. J'ai dit marcher déjà, faire de la marche. Bon, 25 à 30 kilomètres par jour, déjà, est-ce que physiquement je vais être capable, bien que je me sentais quand même, j'ai une âme un peu de sportif, je me suis toujours bougé, mais bon, 25-30 kilomètres, ça me passait assez énorme. Et puis, il a fini de me convaincre, et donc il me dit, bon, ben écoute, cette année, on y va, hein. On part au mois de juillet, bon, très bien. Alors, il me donne toutes les ficelles, comment préparer mon sac, tout ce que je dois mettre dedans. Ça, pour ça, genre, j'étais très organisé, hein. Ça y va jusqu'aux épingles à linge, pour étendre le linge après l'avoir lavé. Enfin, il manquait rien à lâcher glisse. Et tant mieux, parce que ça m'a bien fait gagner du temps. Quand j'ai décidé de dire oui, j'ai dit, mais maintenant, il y avait quelque chose qui m'intriguait quand même. J'ai dit, est-ce que je vais pouvoir marcher 25 km ou 30 tous les jours? Et donc, je me suis un peu entraîné avant de partir et j'ai commencé à marcher autour de chez moi. Et 5, 10, 15, 20 km, je suis allé jusqu'à 20 km, j'ai essayé le sac, tout ça. Et finalement, j'étais prêt. Quand le moment est parti, j'étais prêt.
Pour en venir à l'hostal, c'est que moi, je ne savais même pas dans ce temps-là que les hostals, ça existait. Je pensais que c'était juste des albergués.
Oui, oui. Moi, j'étais un peu intrigué. Je demandais à Georges, mais bon, où est-ce qu'on va dormir? Comment ça se passe? Où c'est qu'on mange? Tout ça. Alors, bon, il me dit, pour manger en Espagne, tu sais, tu connais, tu sais comment c'est. Partout, tu as des bars, le moindre petit village. Là, pour manger, ce n'est pas un problème. Ben pour dormir, bon, il y a des auberges de pèlerins, mais si tu veux, il a eu certainement vu mon inquiétude, ne connaissant pas le chemin, il a dit, si tu veux, ben je vais réserver des hôtels sur tout le chemin.
Ouais.
Bon, mais je lui ai dit, ça me va très bien, comme ça au moins le soir, on aura le confort d'un hôtel et tout, bon, très bien. Et il avait décidé, donc, nous avions décidé ensemble de faire Pampelune-Burgos. Donc, il a commencé à réserver une première nuit à Pampelune. Et derrière, donc, il a prévu des étapes de 25-30 kilomètres. Ouais. Et donc, avec une réservation d'hôtel à chaque fois. Bon, notre première nuit à Pampelune a été plutôt mouvementée, puisqu'on est arrivé le soir. Bon, on était quelques jours avant l'ouverture des fêtes. Mais pour les Espagnols, c'était déjà la fête. Bon, et Georges, qui aime bien ça, avait réservé un petit hôtel, mais en plein cœur du vieux Pampelune.
Ouais.
et alors, on a fait les tapas, on a traîné un peu le soir jusqu'à 1h du matin.
Ouais.
Quand on a voulu aller au lit, on avait les chambres au-dessus d'un bar. On a passé nuit blanche. On est parti de Pampelune. On s'est levé vers 5-6 heures du matin parce que de toute façon, les gars, ils étaient encore dans la rue en train de parler, de boire, et c'était encore la fiesta. Et voilà, donc, notre première nuit à l'hôtel, à Pampelune, où on n'a pas dormi, mais bon, voilà, on est parti et c'était super parce que c'était deux bonheurs le matin.
Ouais.
On a quitté cette ville quand même qui est fantastique, cette ville de Pampelune. Et on est monté sur le mont, il y a la montagne, la Sierra del Perdón.
Ouais, ouais, ouais.
Je sais pas si tu te souviens.
Ouais, ouais, ouais.
Il y a toutes ces ferronneries là, ces œuvres d'art.
Ouais.
Et là, je vais te raconter dès à présent une anecdote.
J'ai tellement d'anecdotes avec Christian que je m'attire de toutes les données tout de suite. Mais si tu veux aller là, est-ce que tu parles de l'endroit où ce que tu me dis? Parce que toi, tu es pilote d'avion dans la vie. Et quand on est monté, c'est pas là, hein, je pense.
Attends, je suis pilote de loisir. Hein.
Ouais.
Je précise,
ouais.
Je ne suis pas pilote professionnel. Hein. Je suis un pilote de loisir.
Mais là, quand on est monté sur cette montagne-là, c'est sur cette montagne-là que tu m'avais dit que tu te sentais comme quand tu étais dans ton avion. Est-ce que tu te rappelles de ça?
Oui, je me souviens très bien, mais excuse-moi, Daniel, c'était pas sur cette montagne-là.
Non, c'était pas.
C'était une autre un peu plus loin.
OK.
Non, c'était pas celle-là.
OK.
Mais
okay,
celle-là, j'ai quand même une anecdote à raconter. Parce que quand on est parti sur cette première étape, alors je resitue le contexte. Donc j'étais un néophyte du chemin. Je m'étais entraîné parce que j'avais peur de pas suivre le rythme. Et donc on est sorti de Pampelune. Et quand on a commencé à attaquer la montée, et Georges me dit bon, mais tu montes à ton rythme. De toute façon, on s'attend en haut. Si ça, l'idée sur les chemins, surtout, c'est de chacun à son rythme. Et puis après, on s'attend, on se retrouvera. T'inquiète pas, tout ça. Bon, ok, très bien. On attaque la montagne. Oh, mais j'étais comme un fauve qu'on venait de lâcher. J'avais envie d'en découdre. J'étais entraîné. Bon, j'ai attaqué cette montagne, je doublais tout le monde. Je suis arrivé en haut comme si ça était une course, tu sais.
Ouais, ouais, ouais.
Et j'ai attendu. Et au bout d'une heure, Georges était toujours pas là.
Oui, mais Georges devait arrêter pour aller se mettre beau à quelque part, je pense.
Je pense que Georges, tu le connais, lui, la première personne qui passe à côté, il faut qu'il discute, donc il avait dû blaguer pas mal,
ouais.
Mais lui, il était déjà dans le chemin, mais moi je le découvrais, tu vois, ce moment-là, j'avais encore rien compris, j'avais rien compris,
ouais.
Et donc le soir, on est arrivé à la première étape, hein. Bon, avec Georges, on s'est retrouvés, et puis donc on est arrivé à notre premier hôtel, enfin à notre deuxième hôtel. Le soir de la première étape, c'était même pas une heure de l'après-midi.
Ouais.
On avait déjà avalé tout le chemin.
Ouais.
Bon, on était dans un hôtel confortable, mais on était tous les deux. Bon, c'était très sympa d'être tous les deux.
Ouais.
Mais rien à voir avec ce que j'ai découvert plus tard, qui sont les auberges, la convivialité, voilà. Donc, cette première expérience, ça a été surtout un copain qui m'a amené, et j'étais heureux de partir avec lui. Je lui faisais confiance, je savais qu'il connaissait ce qu'il faisait, en fait, ce qu'on allait faire. Et donc, voilà.
C'est en quelle année, ça?
Ça, c'était en 2016.
Ok, d'accord. L'année où est-ce qu'on s'est rencontrés?
C'est l'année où on s'est rencontrés.
Ouais, d'accord.
Et ça a été comme ça pendant trois étapes, hein. Et alors, on finissait les étapes, on arrivait à l'hôtel, on faisait un peu de lessive, et puis bon, le soir, évidemment, on allait boire une petite bière, un petit repas au resto, tout ça.
Mm-hmm.
Mais les rencontres, on faisait quelques rencontres dans la journée, mais le soir, ça se prolongeait pas, puisqu'on était déconnectés, on était dans des hôtels.
Ouais.
Et il s'est avéré, par la suite... Bon, ça nous a pas empêché malgré tout de te rencontrer. Hein.
Ouais.
Mais c'est la seule fois que nous avons fait ça. Par la suite, on est parti sans réserver. Je trouve que c'est très bien.
Ouais.
Que c'est très bien parce que t'es beaucoup plus libre dans la journée. T'as pas la contrainte de l'étape.
Ouais.
Et puis tu peux rester avec des gens si t'as fait des bonnes rencontres. Si voilà, en fait, c'est beaucoup plus souple. Et puis alors. La promiscuité dans les auberges, il y a aussi le côté sympathique, quoi, hein, parce que vraiment tu rencontres des gens de partout, les contacts sont beaucoup plus faciles effectivement qu'à l'hôtel, quoi. Hein. Voilà. Donc cette histoire d'hôtel, et c'est vrai que ça t'avait peut-être surpris à l'époque. Donc voilà les explications. C'était peut-être, je pense que Georges avait fait ça un peu pour me rassurer, parce que bon. Il s'est dit, Christian, la première fois, et on va le sortir de son confort. Et voilà. Mais en fait, ceci dit, c'était très bien. Mais par la suite, l'option que nous avons prise, c'était de plus réserver l'hôtel.
Ouais.
Et je trouve que c'était très bien. C'est peut-être ce que je conseillerais aux gens qui se lancent sur les chemins.
Mmh.
Après, bon, c'est pas interdit de réserver. Et j'en ai eu trouvé
ouais.
en discutant qui planifiaient leur étape. Voilà. Surtout pour les gens
ouais.
qui veulent se faire porter le sac. C'est vrai que là, parce qu'il y a des gens qui se font porter le sac par des organismes qui livrent les sacs, et c'est vrai que pour eux, c'est intéressant de planifier.
Fait que j'en reviens quand même à notre première rencontre, parce que je veux l'expliquer aux
gens.
C'est que là, on a commencé à se parler, et vous, c'est sûr que vous faisiez, comme si je me rappelle bien, 6 étapes. Et là, moi, je vous avais dit, ben moi, je le fais au complet. Et toi, ça t'avait comme un peu impressionné de dire, hey, tu vas faire 800 kilomètres, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, on n'avait pas marché l'étape suivante ensemble. Et là, moi, je me rappelle très, très bien, je vous avais revu un petit peu plus loin. Vous étiez comme assis sur le gazon. Vous étiez en train de faire un pique-nique avec un autre collègue qu'on a rencontré, qu'on a beaucoup aimé là-bas aussi, c'est Paola. Et là, on s'est liés d'amitié. On a commencé à marcher ensemble. Et là, soudainement, on a commencé à marcher. Et puis là, c'est là que j'arrive avec ma fameuse montagne que je me rappelle pas exactement c'était où. Et là, on avait monté. Ouais. Et là, tu m'avais dit, parce que pendant qu'on marchait, tu me racontais un peu des aventures que tu avais eues en avion. Et je trouvais ça tellement intéressant. Et c'est ça que je dis aussi aux gens qui vont marcher Compostelle. C'est que les conversations sont tellement enrichissantes parce qu'on est concentré à se parler. On n'est pas avec nos cellulaires. Il n'y a pas de bruit autour. Et j'aimais vraiment nos discussions. Et puis là, tu m'avais dit, rendu en haut de la montagne, tu m'avais dit, tu sais, Daniel, aujourd'hui, on est en haut et j'ai le même sentiment que quand je suis dans mon avion en train de voler, je me sens pareil comme ça. Et là, ça m'avait marqué un peu parce que je trouvais que, tu sais, que c'était beau ce que tu avais dit. C'était vraiment, vraiment beau, tu sais.
Oui, je me souviens très bien de ça. Et en fait, c'est une double sensation. Que je faisais la comparaison avec l'avion puisque je l'ai pratiqué un petit peu pour le loisir, et je faisais cette double comparaison parce que je retrouvais à la fois la beauté des paysages parce qu'on était sur une montagne et l'horizon était dégagé très loin, c'était très beau, il y avait des nuages au-dessus, donc c'était vraiment une vision que j'ai connue en aéronautique. Et l'autre aspect, c'est la liberté. Ben, quand tu es tout seul dans ton petit avion, là, avec un manche entre les jambes, ben, tu es libre. Hein. Tu vois le monde d'en haut. Voilà, tu as une sensation de liberté. Et là, sur le chemin, j'ai retrouvé ça aussi. Tu vois, cette liberté, je ne sais pas si tu as retrouvé cette sensation aussi. Et ben, tu es libre. Tu peux t'arrêter quand tu veux, tu manges où tu veux, tu dors où tu veux.
Ouais.
Tu n'as pas toutes ces contraintes que tu peux avoir dans la vie classique.
Ouais.
Et ça, ce sentiment de liberté, effectivement, en ce moment-là, si je te l'ai dit, c'est que je l'ai ressenti, quoi. C'est vrai, c'est vrai.
Et là, on a continué de marcher. Et vous, votre chemin, si je me rappelle bien, cette année-là, s'arrêtait à Burgos.
Et c'est exact.
Ouais, et là, je me rappelle de toi, entre autres, avec tes ampoules, parce que on était rendu dans le quartier industriel là, pour s'en aller à Burgos. Là, il y a comme 10 à 12 kilomètres à faire, un peu en pleine ville. Et je me rappelais, tu marchais devant moi et je regardais tes pieds, comment tu souffrais, tout ça. J'avais de la peine beaucoup pour toi.
C'était pas des ampoules, c'était une tendinite.
OK.
Et c'était une tendinite qui s'est déclenchée le jour de la dernière étape. On avait fait avant Burgos, je me souviens plus trop, la dernière étape, ça devait être du côté de
Je sais c'est quoi
Bellarodo,
où on avait écouté la Coupe du Monde.
Tu te
rappelles?
Et tu te souviens de voilà, il y avait un match de Coupe du Monde.
Ouais.
On avait regardé la télé.
Ouais.
Et ça a été Georges avait joué de la guitare.
La guitare, ouais.
Il avait emballé la salle et il avait même la patronne, je me souviens, et parce que Georges, bon, il faut le dire un peu à nos auditeurs, est un gars d'abord qui a énormément le sens du contact, est très chaleureux, mais et en plus il joue de la guitare très bien et il chante très bien.
Très bien, ouais, exact, des classiques.
Et qui plus est, en espagnol et en français.
Ouais, exact.
Donc pour mettre l'ambiance, il n'y a rien de tel. Et ce soir-là, dans le bistrot, il avait mis l'ambiance. Bon, on avait bu quelques bières aussi. Et donc, le lendemain, ça avait été très dur. Et dès le début de la marche, j'ai déclenché une tendinite. Et je suis arrivé à Burgos. C'était la fin de notre périple. Mais heureusement pour moi, parce que de toute façon, je n'aurais pas pu continuer. Je vais te faire une confidence aujourd'hui. Le lendemain, quand on a quitté l'hôtel de Burgos pour aller à à la gare,
oui.
J'ai été obligé d'appeler un taxi. Ah. Il y avait 500 mètres, j'ai pas pu les faire à pied, tellement j'avais la tendinite qui me faisait mal. Mais bon, une fois rentré en France, eh bien, je me suis soigné, et puis ça m'a pas empêché de repartir les années suivantes.
Et là, moi, faut que je prenne la relève à partir de là, Christian, deux petites secondes, c'est que quand tu es parti à Bourgogne, ben quand tu es parti chez toi avec Georges, on s'est retrouvé moi puis Paula tout seul. Et j'ai été.
Ouais.
Ça faisait juste 3 jours que je marchais avec vous autres, et le reste du chemin, j'ai pas arrêté de penser à vous autres. Mais là, il faut que je raconte absolument la première anecdote que je pense que tu te rappelles pas, qui a marqué mon chemin. Et après ça, on va raconter d'autres anecdotes qui nous sont arrivées à notre deuxième chemin. Mais ce qui est arrivé, c'est que moi, je pense que je l'ai rencontré au premier podcast. C'est que pendant que je marchais, que c'est, comme je disais tantôt, lui, il trouvait ça vraiment bien que je marche le Compostelle au complet. Il m'avait dit, quand tu vas arriver à Compostelle, je veux absolument que tu m'appelles parce que je veux savoir comment tu vas vivre ce moment-là. Et moi, je le dis souvent à Compostelle, on dirait que tout est exagéré là-bas. Les paysages sont tous plus beaux que nature. Les rencontres qu'on fait, c'est tout les meilleures rencontres au monde. On est ultra heureux. Et moi, quand tu m'avais dit ça, dans ma tête à moi, c'était une obligation de t'appeler absolument à partir du moment que je voyais le panneau Compostelle. C'était comme... c'était non négociable pour moi. Il fallait que je t'appelle la première personne. Et là, je marque le numéro de Christian dans mon cellulaire et j'ai pas marqué le dernier nom de Christian. J'ai juste marqué Christian. Alors, pour vous faire une petite histoire courte, c'est que moi, j'arrive à Compostelle et je vois le panneau. Et la première fois qu'on arrive à Compostelle, je ne parle pas de la cathédrale. C'est 4 à 5 kilomètres avant, quand on voit le panneau de Compostelle, on devient énormément ému, et surtout la première fois. Et là, je pleurais comme une madeleine. J'étais épuisé, et j'étais tellement content d'arriver. Et là, la première affaire, je ne voulais pas appeler ma femme, je ne voulais pas appeler mon père, mes parents, je voulais appeler mon chum Christian. Et là, je vois quasiment rien, j'ai les yeux pleins d'eau. Et là, je téléphone Christian, et là, c'est mon beau-frère qui répond. Le frère de ma femme. Et là, je reconnais sa voix, je dis, Christian, je m'excuse, je m'ai trompé de numéro, c'est pas toi que je voulais appeler, je te rappelle. Et là, je rappelle encore le numéro et c'est encore le beau-frère qui répond. Le problème, c'est que j'ai pas rentré le numéro de Christian au complet. Alors, ce qui est arrivé, c'est que mon téléphone a pris le numéro du Christian que j'avais déjà en mémoire. Alors, j'ai pas pu rejoindre Christian. Et dans ma tête, à moi, c'était catastrophique. Tu sais, je comprenais pas. Et lui, tu sais, toi, en réalité, ce que tu m'avais dit que moi, j'ai pris comme au pied de la lettre, c'est quand tu vas arriver à Compostelle, appelle-moi. Mais tu sais, que ça soit une journée ou deux après Compostelle, c'était pas si grave que ça. Mais moi, non. Moi, c'était comme aussitôt que je mettais le pied puis que je voyais Compostelle, fallait que je l'appelle. Alors là, je suis arrivé à Compostelle et la première année, d'ailleurs, je m'avais mis plusieurs missions, dont une pour demander la Compostella au nom de ma mère parce que ma mère ne filait pas. Et j'avais plusieurs, comme Christian avait dit tantôt, j'avais plusieurs roches dans mon sac. J'avais une cinquantaine de roches qui pesaient quand même assez pesant. Mais moi, dans ma tête à moi, il fallait absolument que je retrouve Christian pour appeler. Et j'avais pas son dernier nom non plus. J'avais pas son Facebook. J'avais rien. Et finalement, je sais pas comment ça s'est fait, mais j'ai réussi à te rejoindre par email. Et j'ai été envoyé. Ouais, c'est ça. J'ai été envoyé le mot pour te dire que ça faisait comme 2-3 jours que j'étais arrivé à Compostelle. Et ça, c'était la première anecdote, mais tu sais, on a vécu tellement d'anecdotes, mais c'est juste pour vous dire que quand on arrive à Compostelle, c'est les amitiés qu'on se fait, tu sais, comme on a juste marché 2-3 jours, et je trouvais tellement que tu sais, qu'on arrivait à se connaître plus que d'habitude. Des fois, tu as des amis pendant des années et tu sais, on se dit juste bonjour, comment ça va, tout ça, mais je trouvais que c'était profond. Et quand tu étais parti de Bourgogne avec Georges, j'avais eu vraiment, vraiment beaucoup de peine. Et même Paula, la même chose, on se l'avait dit durant notre chemin. J'espère qu'on va les revoir. Et là, je veux tomber à cette étape-là parce que l'année d'après, Ouais. Là, on va en parler un peu après, mais l'année d'après, c'était exceptionnel.
L'année d'après, oui, je me souviens très bien.
On a commencé le chemin. Oui, là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai appelé Christian et Georges pour leur dire que je faisais encore ça le 23 juin. Là, on était rendu en 2017. À partir de Saint-Jean-Pied-de-Port. Fait que là, Christian m'avait dit, voilà. OK, arrive la veille, viens dormir chez moi et on va partir ensemble les quatre avec le bon ami avec Christian qui s'appelle Jean-Pierre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné de toi, Georges, et de Jean-Pierre. C'est comment votre amitié est tellement forte depuis que vous êtes super jeune que.
Eh bien, on peut en parler un petit peu.
Ben oui.
Mais Jean-Pierre, et on pourra associer Bernard aussi, hein, puis,
oui, exact.
Que l'on a traîné sur les chemins lui aussi, mais plus tard en 2019. Toi, tu l'as jamais rencontré encore. Non. Mais on va dire que voilà, ces trois copains sont des copains d'enfance. Hein. On était à l'école maternelle ensemble. Donc à l'âge de 3 ans, on a fait toutes les écoles ensemble. On a fait les premiers bals de village ensemble, les premières boîtes de nuit ensemble. On est parti notre première vacance sur la Costa Brava, faire les boîtes de nuit, tout ça, on était ensemble. Voilà, donc on est comme des frères, quoi.
Ouais, hein,
ouais. Cette amitié a duré. Bon, après, évidemment, la vie, chacun a fait sa vie. Hein.
Ouais.
On s'est marié, on a eu des enfants, des vies professionnelles. Mais bon, encore aujourd'hui, on se revoit. Et tiens, tu le sais peut-être pas, mais il y a un mois de ça, nous étions tous ensemble sur le canal du Midi, sur un bateau. Cinq couples. Bon, il y avait Bernard et un autre couple aussi, Christian, qui est un bon copain. Et voilà, nous étions les cinq couples sur le bateau. Et on a passé 3 jours, 3 nuits sur le bateau. À descendre le canal du Midi, c'était super, on a passé un très bon moment. C'est l'épouse de Jean-Pierre qui avait organisé ça, et voilà, on a passé un très bon moment ensemble, et on aime beaucoup, chaque fois qu'on peut, se retrouver, hein, ça, c'est, voilà, donc c'est vrai que c'est une amitié quelque part extraordinaire, parce qu'elle a plus de 60 ans.
Ouais.
Et d'ailleurs, je pense pas qu'un autre que Georges aurait pu me traîner sur les chemins, parce que quand il m'avait parlé de ça, honnêtement, j'étais pas tellement enthousiaste. Bon, marcher, tout ça. Bon, je voyais pas trop ce que c'était. Mais bon, je lui faisant confiance, et je le regrette pas d'ailleurs.
Juste voilà. Pour dire une petite anecdote qui a pas rapport du tout avec le chemin, mais qui va vous faire rire, c'est que tous ces amis-là, qui sont des amis d'enfance, à chaque année, souvent, il allait rénover une maison. et il paraît qu'il n'y a jamais... Ça fait des années que vous faites ça. Il paraît qu'il n'y a jamais une maison qui s'est rénovée aussi lentement que ça, parce que il n'y a pas grand rénovation qui se fait quand vous vous rencontrez à cet endroit-là.
Non, je vois à quoi tu fais allusion. Je vais te raconter ça. Oui, c'est notre copain Jean-Pierre et son épouse ont une maison à la montagne. Un chalet qui est aménagé, il y a tout le confort, il y a tout ce qu'il faut. Mais tous les ans, entre copains, on va y faire un peu d'entretien, on va dire.
Ouais.
Il y a toujours de la peinture à faire, il y a toujours des petites choses à bricoler. Et c'est vrai que, comme on a plaisir à être ensemble, on travaille 2 heures par jour, quoi. Comme ça, ça dure un petit peu. Bon, voilà. Mais enfin, on arrive à faire quand même ce qu'il y a à faire. Oui.
Et là.
Voilà, mais disons que c'est un bon prétexte pour se retrouver.
Ben oui, c'est
là,
ça.
Ouais. Là, on se retrouve qu'entre hommes, sans les épouses. Après, on s'y retrouve aussi avec les épouses de temps en temps. Mais pour les travaux, on s'y retrouve sans les épouses. Voilà, alors ça a une saveur un peu particulière.
et là, on se rend compte, pour en revenir à notre histoire, c'est que là, je m'en vais dormir chez toi et je fais la merveilleuse rencontre de ta femme, Madame Nicole, que j'appelle toujours Madame Nicole. Et là, ce qui m'avait encore une fois beaucoup touché, et là, je vais en parler plus tard aussi, tu avais fait quelque chose qui m'avait vraiment touché. Je pense que j'ai pas eu l'occasion de te le dire, mais je vais te le dire. Mais la première chose qui m'avait vraiment touché, c'est que quand j'avais arrivé chez vous et j'avais vu des écriteaux bienvenue, Daniel, c'était vraiment une super belle accueil. Et je me sentais là. Je me sentais en famille.
Oui, mais ouais. C'est exact. Tu étais en famille et tu le seras encore à chaque fois que tu viendras. Il n'y a pas de souci avec sur ça et c'est vraiment un plaisir. Et cette histoire de Covid nous a peut-être empêché de se retrouver cette année ou l'année dernière. C'est vraiment dommage. Mais j'espère que on le refera.
Ouais.
Et c'est vrai que ce moment-là où nous sommes partis tous les quatre avec
tous les
Georges
quatre avec
et
Jean-Pierre. Ouais, exact.
Et qu'on a franchi les Pyrénées là.
Wow.
Jusqu'à Pampelune.
Ouais.
On t'a accompagné sur ce chemin puisque toi tu partais pour un périple complet.
Ouais.
Et nous t'avons accompagné sur les quatre premières étapes.
Ouais. Mais là je vais raconter une autre anecdote. Là, on s'en va sur les Pyrénées et cette journée-là, on avait eu une super belle journée comparativement à ma journée de l'année d'avant où à chaque fois, habituellement, que tu vas sur les Pyrénées, quand tu es très haut, c'est très brumeux. Et là, non, c'était gros soleil, c'était super beau tout ça. On a fait une super belle marche. C'était vraiment, vraiment intéressant. On avait dormi... comme d'habitude, là, à la première auberge à 8 km.
À l'horizon, oui.
Ouais,
à l'horizon. Tu avais rencontré ta copine canadienne.
Ben là, il faut que je raconte cette histoire-là encore
mais
une fois.
Tu l'as déjà raconté sur un
portail. Ouais, je l'ai raconté souvent, mais tu étais là, alors c'était pas arrangé. Oui. Anne Saint-Hilaire de la Tinda à Montréal était assise juste derrière moi. Et je l'ai reconnu par sa voix là, quand on s'est tous présentés et on était là et on a fait une super belle rencontre. Mais là, je veux raconter l'autre anecdote. Quand on est allé à la troisième étape, à Zoubiri, et là, moi, j'avais marché j'avais marché un peu plus vite cette fois-là, peut-être, je sais pas. Et là, mes amis arrivaient peut-être un petit peu plus tard et moi, je leur apprends que j'ai trouvé une super belle auberge. Et là, Christelle dit « Ah oui, viens me montrer ça, cette auberge-là. » Alors, on s'en va à l'auberge. Mais l'auberge était quand même pas si mal. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est qu'on avait rencontré le champion du monde ronfleur.
Oui.
Tu t'en rappelles, hein?
Champion du monde, on peut le dire.
Oh,
on
oui.
peut le dire.
Et quand on dormait, et là, c'était vraiment... Il venait de l'Irlande, le monsieur, super...
Bien, on a passé la nuit à se raconter des histoires dans le couloir, à laisser le couloir, pour essayer de faire passer le temps.
Et lui, il ronflait tellement fort que tout bougeait dans...
Ouais.
Ah, c'était vraiment drôle. Ouais. Et le lendemain, on est allé manger avec ce monsieur-là, d'ailleurs. On est allé déjeuner avec lui et c'était magique.
On n'y en a jamais voulu.
Non, exactement. Et après ça... après ça, même toi, tu me dis que je ronflais, que j'avais pas réalisé. Et puis, c'est vrai, des fois, quand on dort, on réalise pas. Mais là, il m'est arrivé l'autre affaire, l'autre belle histoire que je vais me rappeler toute ma vie. C'est que vous marchiez jusqu'à Pampelune. Et là, on est allé, c'est votre dernière soirée. Encore une fois, j'avais encore de la peine parce que je perdais mes chums. Et là, on est allé comme dans un restaurant. Et là, je pense honnêtement, dans toute ma vie, je n'ai jamais ri autant que cette soirée-là. En voyant Georges essayer de parler allemand. Quand il ne connaît pas aucun mot allemand.
Alors, attends, là, il y a une
mais je ne vais pas trop embarquer dans l'histoire.
Non, parce que ça, cette soirée à laquelle tu fais allusion, c'était pas à Pampelune. C'est quand on s'est quitté à Burgos.
Non.
Quand Georges s'est mis à parler allemand.
Ah, c'était à Burgos! Oui, t'as raison, parce que Paola était là. Ben oui. T'as raison. C'était à Burgos.
Bon,
d'accord. C'est dans le premier chemin.
Il a abandonné depuis. Il a abandonné. Il reste sur l'espagnol. Il parle tellement bien l'espagnol.
Mais pour faire une histoire courte, c'est que cette soirée-là, il parlait avec... on était tous assis sur une table, plusieurs pèlerins, et Georges, qui aime beaucoup, beaucoup parler aux gens, voyait... c'était pas un obstacle, mais voulait surmonter l'obstacle du langage.
De la langue.
De la langue. Et il y a toutes sortes de mots qui sont sortis de cette soirée-là que je peux pas traduire vraiment, mais c'était non, la foi de...
Ouais.
C'était la fois de ma vie.
Oui,
ouais, c'est ça. C'était la fois de ma vie que j'ai jamais ri autant que ça. C'était tellement drôle. C'était vraiment drôle. Mais pour revenir encore à Pamplonne, quand on s'est quitté, là, encore une fois, je sais pas si je suis sensible comme ça dans la vie, mais moi, j'avais eu tellement de misère avec le retour. Et ça, c'est quelque chose que toi, tu n'as pas vécu parce que j'ai l'impression que le fait que tu fasses... comme 6 étapes à la fois, vu que tu es peut-être parti moins longtemps, j'ai l'impression que tu fais peut-être... T'as pas
le chemin Camino français, je l'ai fait en 3 fois. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire une dizaine d'étapes en moyenne. Hein. Mais c'est vrai que tu n'as pas le même traumatisme que quand tu fais 800 kilomètres d'un coup. Ou 900, même certains qui partent depuis le Puy-en-Velay pendant 2 mois. C'est sûr que l'organisme souffre davantage.
Oui, exactement.
Mais je vais te raconter quand même une anecdote de souffrance.
Ouais.
Alors, je ne sais pas, c'était l'année d'après. On faisait en 2017. C'était cette année-là. Mais je t'en parlerai parce que tu voulais peut-être parler de la partie Santiago.
Ben oui, c'est ça, exactement. Voilà. Parce
mais je t'en parlerai après, alors.
Ouais,
c'est après. Que c'est...
Et là, le point qui m'a vraiment, vraiment touché, là, vraiment là, au plus haut point, c'est que moi, je m'ennuyais de mes amis. Là. Je continuais à marcher, mais en plus, cette année-là, je rencontrais beaucoup moins de personnes que l'année précédente. Il y avait moins de monde sur le chemin. Et c'était plus compliqué. Et là, je m'ennuyais de mes amis. Et vers la fin, je téléphone à Christian pour lui dire « Je suis quasiment rendu à Compostelle. Je vais arriver dans 4 jours. Puis si jamais vous avez l'occasion de venir faire un tour, ben écoute, ça me ferait vraiment plaisir. On pourrait faire la dernière partie. » Puis le lendemain, il me rappelle pour me dire qu'il vient. Et là, je me rappelle comment j'étais heureux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Christian reste à Bayonne. Et Georges, si je m'abuse, il reste à Toulouse. Et Toulouse, c'est quand même à 1000 km de Compostelle. Et Bayonne, c'est au moins 900 km. C'est quand même très,
oui,
très loin.
Oui, à peu près, on va dire. Oui,
900 km. Et on a tout fait ce chemin-là pour venir marcher avec moi les 3 derniers jours pour aller à Fisterra.
Ouais, ouais. Et ouais, on est venu te voir en voiture, hein, il faut préciser.
Ouais.
Mais on avait tellement envie de te revoir que... Voilà, on avait du temps, on l'a fait. Mais ce qui a été chouette, ce qui a été chouette aussi, c'est qu'entre-temps, tu as contacté Paola.
Ouais.
Et Paola, est venue aussi.
Mais pas juste Paola.
Pas juste Paola.
La fille aussi de Amsterdam qui est venue.
Oui. Ouais.
Ouais.
Et donc, on s'est retrouvés là. On s'est retrouvés la fine équipe de 2016.
Oui, exactement.
On s'est tous retrouvés là et on a marché ensemble de Santiago jusqu'à Cap Finistère, 3 jours. Voilà.
Ah, ça, c'était, c'était un peu bonheur. Peu bonheur.
Ah, ouais, c'était.
En plus, nous, à Compostelle, que j'avais découvert l'année précédente, j'avais trouvé un hostel sublime, là. Tu peux pas être mieux placé que ça, tu es en plein.
Ah, ouais.
Et c'est en arrière.
Oui, complètement.
Ouais, c'est en arrière d'une station de crème glacée. On peut pas la voir vraiment que c'est une auberge. Et moi, j'avais arrêté pour acheter une crème glacée. J'avais demandé à la madame, est-ce que vous connaissez un endroit où est-ce que je pourrais dormir? Elle a dit, ben oui, nous, on a des chambres. C'est toutes des chambres, c'est un hostel. C'est tout du très haut de gamme hostel. C'est très, très beau. C'est vraiment pas dispendieux. Et là, on avait été dormir là pendant trois jours. Ben, arrêtons, on avait dormi là quand vous êtes arrivés. On est parti jusqu'à Fisterra. On est revenu le lendemain. Et puis, on est resté là un autre 2 jours à faire.
Ouais, exact.
Ouais, et c'était...
Eh bien, je vais te dire, en 2019,
ouais.
Quand je suis reparti avec
Georges
et Bernard,
ouais.
Et bien on a redormi là. Ah ouais. C'est un peu chez nous.
Et encore là, il est arrivé quelque chose d'assez incroyable. Et je ne sais pas si tu le sais. Georges a fait quelque chose cette journée-là qui m'a ému aux larmes. C'est que moi, si tu te rappelles bien, en 2019, je partais de Paris pour aller à Compostelle. Et moi, ce que je voulais faire, c'est te surprendre parce que tu m'avais parlé dans la... Dans l'année précédente, tu m'avais dit que tu avais vu une pèlerine québécoise en arrière de chez vous, parce que toi, ta maison est sur le littoral. Alors, tu m'avais j'ai vu une pèlerine québécoise et moi, j'ai toujours eu ça en tête de dire, je vais aller les surprendre. Je vais m'arranger avec Georges pour dire, Georges, va chez Christian et quand je vais arriver comme à 6 heures d'arriver chez Christian, ben, vous sortirez dehors, tout ça, puis vous allez pouvoir me voir. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'étais à Paris et mon père, j'ai commencé à marcher, j'ai marché jusqu'à... j'ai un blanc de mémoire jusqu'à... je me rappelle pas exactement le nom de la ville, mais j'ai marché une trentaine de kilomètres et rendu à cette ville-là, j'ai reçu un appel de ma femme pour me dire que mon père allait vraiment pas bien, que toute sa jambe était mauve, toute bloquée, plus de circulation, qu'il pourrait faire un arrêt cardiaque, tout ça. Et là, j'ai revenu à la maison. Et je devais partir avec eux. Et là, ce qui est arrivé, juste pour vous raconter une petite anecdote, puis après ça, je te laisse parler, Christian, c'est que nous, à chaque fois qu'on va à Compostelle, Christian, Georges, moi, même Jean-Pierre, s'il est allé, c'est que quand on arrive à Compostelle, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui se passe. Il y a toujours des violons, des violonistes qui jouent, et c'est tellement beau.
Ah, c'est tellement beau.
C'est beau. Il joue toujours de la musique triste un peu. Et Georges, il savait très bien que j'étais supposé venir cette année-là et j'étais revenu à la maison, avait pris une vidéo des violonistes pour me dire « Ils jouent pour toi. » Et ça m'avait... Je te laisse continuer.
Je me souviens très bien. Georges t'avait envoyé une vidéo. C'était quand on a fait Ponferrada à Santiago.
Ouais.
En 2019, évidemment, en arrivant là-bas, on a pensé à toi, on a dormi à cet hôtel que tu nous avais fait découvrir, donc tu étais un peu avec nous, c'est vrai.
Puis là, c'est sûr que la COVID, ça, comme tu dis, ça l'empêche.
Ah, ça nous a un peu coupé les langues.
Ouais, hein.
Je vais te raconter quand même, puisque je te disais que le chemin, le Camino Francés, je l'ai fait en trois fois. La première fois, je suis arrêté à Burgos, après Burgos, Ponferrada, et après Ponferrada, Santiago.
Ouais.
Et entre-temps, l'an dernier, en 2020, je suis allé toujours au gré des opportunités, parce que Jean-Pierre et son épouse Monique allaient marcher sur les chemins entre Cahors et les Clours, et je suis parti avec Georges, les rejoindre. Et donc, on a fait un peu de chemin quand même, malgré le Covid l'an dernier, entre Cahors et les Clours, sur la voie Podensis, qui part depuis Envelé. Alors, c'est complètement différent, on retrouve pas du tout l'ambiance espagnole, après les rencontres, c'est pareil, on a fait aussi des rencontres super, on a vu des beaux paysages, enfin on a bien profité aussi, ça a été court, mais voilà, on a réussi en 2020 à faire quelque chose. Pour le 2021, je désespère pas, peut-être en septembre, je sais pas, parce que la situation est pas terrible en ce moment en Espagne. Et donc on sait pas trop, mais je sais que avec Georges, s'il faut, on va être vite prêt. C'est une opportunité qui se présente pour partir. Et donc, on est là. On sait l'un comme l'autre que s'il y a une opportunité, on essaiera de faire quelque chose.
Mais tu sais, je vais parler de Georges deux petites secondes dans l'histoire. C'est que l'autre chose qui est arrivée avec Georges, c'est que, comme je disais, en 2019, j'avais acheté mes billets, puis finalement, je repars de la France à revenir à la maison à cause de l'état de santé de mon père. Mais en 2020, on a décidé de faire le Camino Francés à partir de chacun de chez soi. Alors, Georges m'a accompagné là-dedans. On a marché toutes les étapes du Camino Francés. Lui, il a marché de chez eux. Moi, je l'ai marché d'ici. Et c'était vraiment pas la même ambiance. On a marché les 800 kilomètres, mais c'était plus une marche pas d'ambiance. Tandis que quand on va à Compostelle, c'est pour ça que je veux te poser cette question-là. C'est que toi, dans tes trois voyages que tu as faits sur le Camino français...
Alors, je précise, j'ai fait les trois voyages sur le Camino français, une escapade un peu dans la partie...
Puy-en-Velay.
Sur le chemin du Puy-en-Velay, entre Cahors et Lectoure. Et j'ai fait aussi, avec Georges, en partant de chez moi, carrément, puisque moi j'habite juste au-dessus de Bayonne, et je suis sur la voie du littoral, et on a fait le Camino du Nord, on en a fait un tiers, enfin, Georges l'a terminé, lui il est allé jusqu'au bout, mais moi j'en ai fait un tiers, je suis allé jusqu'à Santander. Et ça, c'était en 2018. Là, on est parti tous les deux, là, de chez moi, carrément, et voilà, on a attaqué, et bon, alors c'est l'ambiance espagnole, toujours les rencontres, tout ça, toujours évidemment sans réservation d'hôtel, et toujours dans les auberges, de préférence les auberges de jeunesse où là où on retrouve du monde, de l'ambiance, des gens avec qui échanger. On a fait de bonnes rencontres aussi toujours, mais je te le dis, je n'ai pas fait d'autres rencontres qui ont duré dans le temps comme avec toi.
Ah.
Tu es vraiment la seule rencontre, bon, puisque maintenant ça fait, on est en 2021, ça fait 5 ans, avec qui je continue malgré la distance à prendre des nouvelles et à échanger.
Ben, je peux te l'expliquer très très facilement. Premièrement, comment je pourrais dire ça, c'est que je te voyais comme un père sur le chemin. C'est une blague, Christian. Oui. Non, mais en réalité, c'est parce que j'ai été touché, honnêtement, par la sensibilité de toi puis Georges. Je trouve qu'on est arrivé au même moment. Tu sais, on était zen au même moment. C'est vraiment bizarre. Je sais pas comment l'expliquer. Mais tu sais, c'est...
Moi, ce qui m'a vraiment plu chez toi, c'est ce que tu t'es confié, tu t'es confié à nous facilement, sans retenue, tu as raconté ton histoire et tout, et ça nous plaît beaucoup. Et c'est un peu la particularité sur les chemins, où on se rencontre sans masque, sans jugement, sans étiquette, sans classe sociale, sans différence d'âge, de sexe, de nationalité, on s'en fout de ça. Et on échange, et voilà. Et donc ces échanges, elles sont sincères, elles sont pures. Et voilà, et quand on s'est rencontrés, on est parti sur des échanges de ce type-là, et d'un niveau de sincérité extraordinaire, quoi. Hein. Ouais, c'est ça qui m'a touché sur les chemins. Hein.
T'as tellement raison.
Voilà, et avec toi particulièrement, parce que on est allé encore plus loin ensemble. Mais il faut le dire aux gens qui sont pas encore partis ou qui envisagent de partir, les rencontres sont extraordinaires. Ça n'a rien à voir avec les rencontres du quotidien que l'on fait dans la vie de tous les jours. Parce que les gens sur le chemin, ils ont tombé le masque. Et donc ils parlent, ils disent ce qu'ils ont envie, sans préjugés. Enfin voilà, je vais pas me répéter, mais c'est exactement ça, quoi.
C'est dur à expliquer comment le chemin fait en sorte que tu trouves aussi facilement. Mais moi, la seule explication que je peux voir vraiment, c'est la qualité des discussions, dans le sens que ça aussi, je le dis très, très souvent, mais souvent quand on parle avec quelqu'un, il y a toujours une télé d'ouvert, il y a toujours du monde autour, et souvent on parle, mais est-ce qu'on écoute vraiment? Tandis que là-bas, l'écoute est là. Comme tu disais, t'as pas peur d'être jugé, parce que la personne, il y a des grandes chances que tu ne la revoies pas, à part si tu t'appelles Christian ou Georges, parce que l'année d'après, Georges m'appelle en plein mois d'octobre. J'arrive chez vous dans une semaine. Ah oui? Ah bon? Alors là, il est venu passer une semaine chez moi parce qu'il s'ennuyait aussi un peu. Et c'est ça que je peux pas retrouver ailleurs, tout ça. Hey, je voulais te poser une question, Christian. C'est quoi tes, tes endroits préférés sur le Camino français? Y a-t-il une ville
sur
où...
Le Camino...
Ouais, sur le Camino français.
Y a-t-il... Ouais, ouais. Sur le Camino français, écoute, y a des paysages extraordinaires. Hein. Mais les plus beaux paysages, honnêtement, c'est sur le chemin du Nord. Hein. Alors, bon, j'ai préféré les paysages du chemin du Nord. Et encore, je ne suis arrivé qu'à Santander, parce que là, très souvent, on longe la côte. On est sur des falaises, on voit des criques, il y a la mer, il y a ces sauvages. Et pour la qualité des paysages, le chemin du Nord est extraordinaire. Un peu plus difficile, il y a un peu plus de montée et de descente. Bon, après, sur le chemin français, il y a aussi de très, très beaux pays, et puis il y a de très belles villes. Hein. Quand tu vois Logroño, quand tu vois Burgos, León, Pampelune, tout ça, c'est des villes magnifiques. Des paysages, il y en a de magnifiques. Il y en a un qui est très beau, et peut-être là où j'ai souffert le plus.
Ouais.
Je vais te raconter cette anecdote. C'est quand, en 2017, oui, 2017, on fait donc Burgos-Ponferrada. Et puis, arrivé à 2 jours de Ponferrada, c'est-à-dire on arrive à Astorga, le soir, tu vois, Astorga, qui est une belle ville aussi.
Ouais.
Et là, j'ai, depuis 2 ou 3 jours, j'avais une ampoule au talon. Et puis, je m'étais mis un pansement, pero ça décompide, le terme commercial. Et puis, bon, on m'avait dit, ce truc-là, tu le laisses là-dessus, et puis il tombera bien un jour, et tu le gardes le plus longtemps possible. Bon, très bien. Et au bout de 3 jours, autour du pansement, ça commençait à être vilain, c'était très rouge. Et quand je suis arrivé à Astorga, le soir, à l'hôtel, à l'auberge, je m'enlève le pansement, et là, catastrophe. C'était complètement infecté dessous, ça me faisait mal, mais c'était vilain. J'avais un trou plus gros qu'une pièce de 2 euros, bien plus gros. Et puis profond. Mais alors, je me suis même un peu affolé parce que c'était douloureux, c'était tout rouge autour, vraiment vilain. Je suis allé voir un pharmacien. Ah, il me dit, ne restez surtout pas comme ça. Il m'a donné du désinfectant. Vous faites des compresses et vous laissez à l'air, et des compresses de désinfectant. Et à l'air, il faut que ça sèche. Mais demain, n'allez pas marcher. Si encore ça s'aggrave pas, bon, et que ça commence à sécher, vous pourrez peut-être envisager de marcher après-demain. Mais demain, il faut que ça reste encore toute la journée à l'air. Bon, très bien. Je range, je me soigne toute la nuit. J'ai laissé le talon à l'air. Et puis le lendemain, eh bien, j'ai laissé toute mon équipe là parce qu'on avait rencontré aussi des jeunes super. Il y avait un Allemand, enfin, il y avait un Serbe, un Allemand. Voilà, il y avait. On était toute une équipe là. Il y avait les Danoises aussi et on marchait ensemble. Et puis j'ai été obligé de les laisser. Le matin, je les laisse donc. Et puis j'ai dit, écoutez, je me débrouille pour arriver. L'étape, c'était Fonsé-Badon,
ouais.
Un village abandonné.
Oui, je me rappelle.
Et alors, j'y pensais parce que c'était un paysage magnifique en arrivant dans ce village et en descendant d'ailleurs aussi. Donc le lendemain matin, ne pouvant pas marcher, je laisse partir mes amis. Et je me suis dit, tiens, il faut que je tue le temps. Je vais aller visiter un peu Astorga. Et il se trouve qu'à Astorga, il y avait de quoi visiter. Il y avait un palais épiscopal de Gaudi, fait par Gaudi, magnifique. Donc j'ai fait visiter le palais, et puis après j'ai visité la cathédrale, le musée. Enfin bon, j'ai passé la matinée, et tout ça avec le pied à l'air. En fait, je m'étais mis la chaussure, si tu veux. J'avais écrasé le talon et j'avais le talon à l'air. Et donc là, 21, j'ai dit c'est le moment d'aller voir si je trouve un bus ou si je dois me faire amener en taxi. Enfin bon. Et finalement, il y avait un bus qui partait sur Fonsé-Badon. Donc vers 1 heure de l'après-midi, je prends le bus. J'ai dit impeccable. Ce soir, je vais pouvoir rejoindre toute la bande. Et puis, on fera la dernière étape ensemble, puisque après, c'était la dernière étape, foncer ballon et Pont-Ferrat. Bon, très bien, je prends le bus, je sympathise avec deux Allemandes, ouais. qui étaient dans le même cas que moi, qui prenaient le bus pour rejoindre un groupe. Et en fait, une des deux Allemandes avait fait une chute avec le sac à dos, et puis elle avait cogné la tête contre une pierre, et puis elle avait une douzaine de points de suture. Enfin bon, bref, nous voilà les éclopés dans le bus. Et puis, le bus, à un moment donné, s'arrête et ils nous disent « Bon, les personnes qui vont à Fonsevadon, vous descendez ici. » « Ah bon, qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, depuis cette année, ou depuis quelques temps, le bus ne monte plus qu'à Fonsevadon, parce que le village est abandonné, il y a zéro habitant. Ah bon? Et donc, je vous laisse en bas du col. Et donc, me voilà en bas du col.
Monter la montagne.
6 kilomètres à faire. Mais j'ai dit, mais jamais je vais arriver à faire 6 kilomètres. Bon, alors j'ai dit, c'était quand même assez tôt. Bon, ben, j'ai dit, tu commences à marcher avec le pied, la chaussure en savate. Tu vois
ouais,
comment
ouais.
c'est. Hein,
ouais, ouais.
Le talon replié. Et puis, mon talon à l'air. Bon, je commence à marcher. Et au bout d'une heure et demie de marche, à peu près, j'avais fait 3 kilomètres. Donc, tu vois, je faisais du 2 kilomètres à l'heure. Je marchais péniblement. Et là, le moral commence à s'effondrer. Là, je voyais que, en fait, il se formait d'autres ampoules. J'avais écrasé le talon de la chaussure. Mmh. Et dessous, si tu veux, évidemment, mon pied ne portait pas normalement. Et depuis le matin que je marchais, il s'était formé d'autres ampoules. Et là, je me sentais mal. Je me suis dit, tu vas jamais arriver. Et donc là, je commençais à regarder un petit peu sur le portable. S'il y avait des taxis, si je pouvais faire venir un taxi. Enfin, quand tu connais le coin, là,
ouais.
Bon, c'est assez paumé. Bon. Mais je me disais toujours d'Astorga, j'arriverai bien à trouver un taxi si jamais je peux plus avancer. Et c'est à ce moment-là que se produit, je sais que c'est une notion auquel tu es très attaché,
c'est
se produit le miracle du chemin. Voilà que sur le côté droit de la chaussée, une espadrille bateau, là, avec une épaisseur de 2 cm en mousse, m'attendait.
Aïe,
je te dis, mais comment cette espadrille, elle peut être là, au moment où tu es prêt à lâcher, que tu ne peux plus avancer, tu as une espadrille qui t'attend.
Hey, tu ne me l'avais jamais raconté, celle-là.
Et non, je ne t'avais pas raconté, c'est pour ça que je te l'ai gardée. Et cette espadrille, dis donc, genre claquette, tu sais, avec... où on met entre le pouce, le gros orteil et le doigt d'à côté, tu enfiles ta claquette là-dedans.
Ouais.
Et donc, c'est ma taille, même légèrement plus grand, le bon côté, parce qu'il n'y en avait qu'une, hein, c'était le côté droit, et il me fallait le côté droit. Mon pauvre, quand j'ai enfilé cette espadrille, là, cette claquette, mon pauvre, c'était le bonheur.
Oh,
il me restait
wow.
3 kilomètres à faire. Et je suis reparti tout boosté. J'ai refait mes 3 kilomètres. Je suis arrivé là-bas. J'ai retrouvé toute l'équipe. On a bu quelques bières. On a passé une soirée super dans ce village. Je ne sais pas si tu te souviens, ce village, il y a tout qui s'écroulait.
Ben oui.
Et là, il y a quelques bénévoles du chemin là, qui ont retapé des auberges et qui ont retapé des. Et on a dormi là. C'était super. Et le lendemain, eh bien, je me suis fait un double pansement avec de la gaze, bien protégé. Et puis, on est arrivé à Pont-Ferrat. Et après, on rentrait en France. Et j'ai pu terminer, et surtout terminer avec... On a fait la dernière étape avec tout le groupe d'amis. Là. C'était extraordinaire. Voilà, eh bien, ça a été... Voilà mon petit miracle à moi. Ça a été cette espadrille-là. Au moment où tu t'y attends pas, eh ben t'as ce truc qui te tombe là,
ouais.
Juste à côté. Voilà. Donc wow. c'était cette petite histoire, je voulais te la raconter.
Ouais, je suis vraiment content.
Pour, C'était un petit miracle pour moi, vraiment, ouais. Parce que j'étais bien embêté à ce moment-là.
Hey Christian, on a commencé le podcast, tu nous disais que tu n'avais pas la notoriété ou tu n'étais pas un pèlerin hors du commun, tu étais un pèlerin oui. extraordinaire, Christian. T'es extraordinaire, ouais. En plus, comme je dis souvent dans les podcasts, les rencontres, j'ai fait la meilleure rencontre que je pouvais pas faire quand je vous ai rencontré, toi, Paola et Georges. Tu m'as marqué à vie. Les gens vont écouter ta voix, ils vont se faire une petite tête. C'est à quoi qu'il ressemble cet homme-là qui parle? Alors, je vais vous donner un petit indice. Son surnom, c'est Babel. OK. Et il ressemble comme deux gouttes d'eau à Jean-Paul Belmondo, mais Jean-Paul Belmondo dans son meilleur temps. Là. Pas maintenant, dans son meilleur temps. Alors, Christian, il ressemble beaucoup à Jean-Paul Belmondo. Mais...
Non, il n'y a que toi qui me trouves des ressemblances avec Babel. Hein. Je ne sais pas.
Non. Tout le monde trouve que tu ressembles. Mais je veux juste te dire, Christian, tu es extraordinaire. Tu as changé ma vie, parce que quand je t'ai rencontré, j'ai rencontré Georges. Moi, j'ai pas de frère dans ma vie, je n'ai qu'une sœur. Et j'avais l'impression que j'avais un frère. J'avais des frères entre toi et Georges. Puis j'espère vraiment, parce que les années passent à cause de la COVID, tout ça, et là, ça fait 3 ans qu'on s'est pas vu. J'espère vraiment que cette année, c'est la dernière année sans se voir et qu'on va se voir l'année prochaine. Et j'ai encore espérance l'année prochaine d'aller te surprendre en arrière de chez toi, puis qu'on puisse manger le fameux couscous à ta femme, puis le taboulé et passer du bon temps ensemble, parce qu'on vieillit, puis je veux pas perdre ces belles années-là qui restent, je veux voir mes amis.
Ah ben écoute, c'est mon souhait, et je partage ton envie, j'espère que dès qu'on peut, on le fera.
Ouais.
Après, quant à ma ressemblance avec Bébel, il n'y a que toi qui me trouve des ressemblances avec Bébel.
Mais moi, je trouve que pour ton âge, tu es un très bel homme.
Ouais, merci. merci. Ben, j'espère qu'on se reverra très vite, Daniel. Et bien sûr, de toute façon, on ne manquera pas de se donner des nouvelles. Et voilà, donc j'étais content de passer ce moment avec toi. J'espère que peut-être j'aurai aussi donné envie à certains d'aller sur les chemins.
Ouais, ah oui.
Parce que bon, y en a qui, comme je disais au départ, moi je l'ai fait par morceaux, le chemin de français en 3 fois, j'ai fait du chemin du Nord 2 fois, et encore je suis pas arrivé au bout, je suis un peu parti sur la voie du Podensis, voilà, donc c'est au gré des opportunités, mais ce qui est important, c'est aussi de partager les rencontres. Moi j'ai la chance d'avoir des copains, et chaque fois qu'ils me disent, tiens, ça te dit de partir, on va sur les chemins, évidemment je n'ai que envie de partir avec eux, et ça continuera. Ouais. Voilà, d'autres le font tout seuls. Il y en a pour tous, sur les chemins.
Ouais.
Je pense que toutes les circonstances, toutes les occasions sont bonnes pour y aller.
Ouais. Et quand je pense à toi, Christian, je pense à un film que toi puis Georges m'avez parlé sur le chemin. Le bonheur est dans le prix.
Ouais.
Et quand je suis revenu de Compostelle, Georges et toi m'aviez parlé de ce film-là. Je me le suis procuré en arrivant. Et c'est vrai que quand j'écoute ce film-là, c'est mes amis Georges et Christian, ouais.
Parce que c'est tourné, ça a été tourné dans notre coin de France,
ouais.
Dans le Gers. Donc c'est dans ce coin qu'habite Georges, et moi je suis natif de là. Bon, maintenant je suis du côté de Bayonne, mais c'est là où j'ai passé toute ma jeunesse. Et donc c'est un coin très rural, où les valeurs humaines sont encore très présente. C'est nos repères.
Merci beaucoup.
Eh bien, écoute, Daniel, merci à toi. Et
je te souhaite buon camino.
Bon camino à toi aussi, Daniel.
Son métier, chef cuisinier. Sa passion, pèlerin à temps plein. Daniel Lafond vous invite dans son univers et celui de ses invités, chers mordus de Compostelle. Prenez place et buen camino!